Nous poursuivons notre étude des ministères et nous abordons ce soir le ministère de docteur. En fait, il y a deux listes de ministères où le docteur apparaît. La première, c'est dans le texte fameux de Éphésiens 4, verset 11. Et là, le ministère de docteur suit celui d'évangéliste. Nous voyons donc, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. En sorte que certains ont parfois pensé que pasteurs et docteurs étaient des ministères interchangeables, voire équivalents. Nous verrons tout à l'heure justement pourquoi il y a cette assimilation qui est faite. Mais il y a une deuxième liste des ministères que nous trouvons en Romains 12, versets 6 et 8, où il nous est dit « Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs. » Donc ici, il est clair qu'il y a une hiérarchie d'importance qui est souligné par le texte biblique, et que ceci n'affirme en rien ce que nous lisons dans Éphésiens 4, mais donne une autre dimension, si on peut dire, au ministère de docteur. Comme le dit l'expression en grec, didaskale, le ministère de docteur a particulièrement à voir avec la doctrine. Le mot docteur est certainement repris de l'hébreu moré, qu'on trouve aussi dans le judaïsme, n'est-ce pas ? Souvent, l'expression revient dans le Nouveau Testament, les docteurs, docteurs de la loi. Les gens qui expliquaient donc la Torah et qui fondaient la doctrine. Il est bien clair que il est tout à fait normal et logique de trouver un ministère équivalent dans l'Église. Il y a plusieurs textes dans le Nouveau Testament où est mentionné le ministère de docteur. Je prends par exemple trois de ces textes. Acte 18, verset 24, 1 Corinthiens 3, verset 6, 1 Corinthiens 16, verset 12, Tite 3, verset 13, ils veulent être docteurs de la loi, mais ils ne savent pas ce qu'ils enseignent. Donc ici, il s'agit de faux docteurs. D'ailleurs, Jésus met en garde les disciples au temps de la fin en disant qu'il viendra des faux prophètes et des faux docteurs. Il semble que les faux prophètes et faux docteurs soient associés constamment dans ce qui concerne les temps de la fin. Et nous retrouvons cela chez Pierre également, nous retrouvons ça chez Jude, nous retrouvons ça chez un certain nombre de gens qui parlent précisément des choses de la fin. Donc, dans d'autres textes, si le ministère de docteur semble associé à celui du pasteur dans Éphésiens 4, dans d'autres, il semble associé au ministère de prophète. Acte 12, il y avait à Antioche des prophètes et des docteurs. Il semble bien donc que ce soit deux ministères qui sont en vis-à-vis, mais qui sont aussi en complémentarité. Maintenant, le texte d'Éphésiens 4, auquel nous faisons allusion tout à l'heure, nous montre qu'il peut y avoir un ministère de docteur qui est proche de celui de pasteur. C'est logique. Quand nous étudierons le ministère du pasteur, nous verrons que ce dernier a entre autres charge d'enseigner. Donc, à sa manière, le pasteur est aussi un enseignant. Donc, il est aussi un docteur. C'est donc normal que le texte d'Éphésiens 4 dise « comme pasteur et docteur ». Mais Dans ce cas-là, si nous avons affaire à un pasteur, l'élément pastoral prendra le pas sur l'élément enseignement. Par contre, si nous avons affaire à un docteur, l'élément enseignement prendra le pas sur l'aspect pastoral. Et c'est ainsi que nous sommes amenés à dégager deux types de docteurs. On pourrait appeler le docteur sédentaire, c'est-à-dire celui qui est plus attaché à une communauté locale et par conséquent à un rôle pastoral, même s'il est second par rapport à son ministère premier, qui est le ministère de docteur. Et puis, il y a le docteur au sens plein du terme, dont le ministère, en principe, est beaucoup plus itinérant. Le type le plus représentatif de ce ministère dans l'époque contemporaine, c'est celui de Butler. Butler, qui donc était professeur dans une école biblique, et qui, de là, voyageait énormément. Maintenant, dans le Nouveau Testament, le docteur type est Apollos. Apollos, qui avait, semble-t-il, déjà avant sa rencontre avec le Seigneur, une propension à l'enseignement, une capacité d'enseignement, qui, à partir du moment où il va être rempli du Saint-Esprit, va être sanctifié par l'Esprit de Dieu, en sorte que Apollos va devenir un docteur. En quoi consiste le ministère du docteur? D'abord, on pourrait dire que, comme tous les autres ministères, il est basé sur un certain nombre de charismes, de dons spirituels. Paul fait allusion à cela, Romains 12, verset 7. Il parle de la grâce qui lui a été accordée, c'est-à-dire, si nous reprenons le mot grec, la charis, d'où vient le mot charisme. Selon la grâce qui lui a été accordée, eh bien, il remplit son ministère. De la même manière, Apollos avait reçu une charis, une grâce particulière pour remplir son ministère. Bien sûr, nous pouvons dire que l'apôtre Paul aussi avait une dimension d'enseignant absolument remarquable. Et Paul est un des plus grands docteurs de l'Écriture, celui qui nous a laissé l'enseignement le plus profond qui soit. Vous allez me dire, mais était-il apôtre ou était-il docteur? Il était apôtre. Or, nous avons vu que le ministère de l'apôtre comprend un peu toutes les facettes des autres ministères, même s'il y aura une accentuation plus grande dans un certain type de ministère que dans l'autre. Pour Paul, c'est clair, c'était le ministère de docteur, c'était l'aspect doctoral qui prédominait dans son ministère d'apôtre. Or, Paul nous parle de cet enseignement qu'il donne en disant qu'il ne l'a pas reçu d'un homme, qu'il ne l'a pas appris d'un homme, mais, dit-il, il l'a reçu par une révélation de Dieu. Et c'est pourquoi ici, il nous faut tout de suite éliminer une conception erronée du ministère du docteur. Le docteur n'est pas un théologien. Or, aujourd'hui, la confusion est presque toujours faite. Et l'on considère, dans la plupart des églises historiques, catholiques, réformées, anglicanes, luthériennes et tout ce qu'on voudra, qu'on est docteur à partir du moment où on a un diplôme de théologie. Or, si Paul avait des diplômes de théologie qu'il avait acquis au pied de Gamaliel, c'est pas ça qui a fait de lui un docteur. Cet évangile que je vous annonce, je ne l'ai pas appris d'un homme ni reçu d'un homme, mais je l'ai reçu par une révélation de Dieu. Et Paul avait dû répudier, si j'ose dire, tous ses diplômes de théologie pour pouvoir apprendre du Seigneur. Quel est donc le charisme ou les charismes du docteur? Car encore une fois, le ministère de docteur est basé sur un don de Dieu, une grâce de Dieu. On ne devient pas docteur dans l'Écriture parce qu'on est sorti d'une faculté de théologie, parce qu'on a étudié. On ne devient pas docteur parce qu'on a des dispositions naturelles pour l'enseignement. On devient docteur à partir du moment où on reçoit une grâce de Dieu pour cela. Maintenant, évidemment, ça ne veut pas dire que le docteur n'aura pas besoin d'étudier. Ça ne veut pas dire que il n'aura pas besoin d'un minimum de recours, je dirais, à une bonne théologie, mais je mets théologie entre guillemets. Mais ça veut dire que l'essentiel de son ministère ne vient pas de là. Et la capacité du docteur vient, comme dit l'apôtre Paul, d'une révélation de Dieu sur l'Écriture. Dans le fond, c'est l'expérience qui était celle des disciples qui allaient à Emmaüs, ou plutôt des disciples dans la chambre haute le soir de la résurrection, pardon, où il nous est dit « Alors il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. » Le docteur est celui dont Dieu ouvre l'esprit pour qu'ils comprennent l'Écriture et qu'ensuite ils soient capables de l'expliquer au peuple. Le prophète, et on voit la différence ici dans le domaine surnaturel, le prophète est quelqu'un qui a une révélation en dehors de l'Écriture. Et ensuite, parce que justement sa révélation est en dehors de l'Écriture, cette révélation doit être confrontée avec l'Écriture pour voir si elle coïncide avec l'Écriture. Le docteur est un homme qui reçoit une révélation sur l'Écriture, une intelligence surnaturelle, une compréhension surnaturelle de l'Écriture. Et c'est pourquoi, précisément, docteur et prophète sont à la fois en vis-à-vis et en complémentarité. Car, comme l'a fort bien dit Donald G., qui était aussi le type même du docteur, n'est-ce pas ? Le prophète a besoin éventuellement du correctif du docteur, et le docteur a besoin du souffle du prophète, de l'enthousiasme du prophète, du dynamisme du prophète. Et là, nous voyons justement le plan de Dieu qui est fait de complémentarité et non pas d'opposition. Et le drame vient parfois dans l'œuvre de Dieu lorsque chacun, en quelque sorte, à cause du ministère qu'il a reçu, absolutise la vision qui est la sienne. Alors qu'en réalité, il faut que les choses s'ajustent. Et nous verrons que ça joue encore beaucoup plus quand nous parlons du ministère d'évangéliste. Donc ici, une révélation, une intelligence surnaturelle de l'Écriture. Autrement, nous avons des gens qui pensent être des docteurs et qui ne le sont pas. Nous avons des gens qui ont des talents naturels pour l'enseignement ou pour l'exégèse des textes, parce qu'ils ont appris les techniques qui s'y rapportent. Mais la différence que l'on voit immédiatement entre un vrai docteur et un faux docteur, enfin, faux docteur, je veux dire, pas un faux docteur qui enseigne obligatoirement des choses erronées, mais quelqu'un qui n'a pas véritablement le ministère de docteur au sens d'Éphésiens 4, c'est que nous avons affaire alors à un enseignement sec, fragmentaire et desséchant. Tandis que, au contraire, le ministère du docteur est édifiant. Il y a un souffle de l'esprit qui est de nature différente de celle du prophète, mais qui est néanmoins un souffle de l'esprit véritable qui anime le ministère du docteur. C'était le cas avec Donaghy, c'était le cas avec Butler, beaucoup plus encore avec Butler, parce que Butler avait cette dimension prophétique que Donaghy avait moins, semble-t-il. Et alors, ce qu'on demande essentiellement au docteur, c'est d'établir la doctrine juste, la compréhension juste des Écritures. Alors, bien sûr, le docteur, est l'objet d'une révélation de Dieu sur l'Écriture. Soudain, si vous voulez, le Seigneur lui révèle le sens caché de telle et telle Écriture, et aussi la manière de l'enseigner. Et puis, cette révélation, qui est une révélation intérieure, n'exclut pas pour autant, bien sûr, que le docteur soit quelqu'un qui étudie. Le docteur est certainement, de tous les ministères, celui qui est appelé à étudier le plus. Ça ne veut pas dire que les autres ministères n'étudient pas. Mais l'élément d'étude est moins important, par exemple, dans le ministère du prophète. Tandis que le docteur, il se penche sur le texte, il scrute le texte. Et c'est précisément de sa confrontation avec le texte que soudain jaillit la lumière par la révélation du Saint-Esprit, par la sagesse, par la connaissance que lui a inspiré l'écrit. Maintenant, quand il a découvert cette vérité de l'Écriture, maintenant, bien entendu, ce n'est pas des vérités qu'on découvre 365 jours par an, il y a une nouvelle révélation qui est donnée, bien sûr, au docteur, c'est évident. Il y a des doctrines qui ont été établies une fois pour toutes, et sur lesquelles il n'est pas nécessaire de revenir. On ne refait pas le monde à chaque génération, bien sûr. Et là, bien sûr, il y a tout un dépôt, comme le dit l'apôtre Paul, qui se transmet. La saine doctrine, le dépôt de la saine doctrine qui a été établi par ceux qui nous ont précédés. On ne va pas aujourd'hui tout réinventer, bien sûr. Alors, dans ce cas-là, on peut se dire, mais il n'y a pas tous les jours, bien sûr, un problème doctrinal majeur qui se pose, qui exige que les docteurs se penchent sur ce problème doctrinal. Non, certes. Mais je dirais qu'il y a d'abord un effort pour toujours mieux comprendre l'Écriture. Car l'Écriture, comme l'ont dit les rabbins, a 70 facettes. Ça veut dire qu'on n'en a jamais épuisé la richesse. Et il faut évidemment que cette richesse de l'Écriture soit toujours conforme à l'analogie de la foi. Ça veut dire que ça reste cohérent avec l'ensemble du texte biblique. Et c'est au docteur d'y veiller. Et puis deuxièmement, il faut que ça redescende dans le peuple. Et le propre du docteur, c'est celui justement qui va rendre ces vérités, parfois complexes, accessibles, compréhensibles au peuple. Le vrai docteur, c'est celui qui rend simple des choses compliquées. En sorte que le plus petit, le plus humble, soudain perçoit la vérité, c'est une vérité qui l'illumine. Dans le fond, ce que faisait Jésus, il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Ou encore les disciples qui disaient « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous parlait ?» Et soudain, les choses deviennent claires, les choses deviennent évidentes. Les choses deviennent logiques. Le docteur est quelqu'un de logique. Le prophète est beaucoup plus intuitif. Le docteur est beaucoup plus logique. Et c'est pourquoi, parfois, on a prétendu que les docteurs n'étaient pas nécessaires. Déjà du temps de Donaghy, Donaghy raconte dans ses livres comment, arrivant dans une certaine ville où le réveil de Pentecôte avait soufflé, avait constaté qu'il n'était pas tellement le bienvenu. On avait dit, vous savez, nous, ici c'est le réveil, on n'a pas besoin de docteur. Le réveil nous suffit. Les docteurs, quand ils passent quelque part, ils éteignent le réveil. Ils créent des divisions. C'est une mauvaise conception du docteur. Bien loin d'éteindre le réveil, quand un véritable docteur est là, rempli du Saint-Esprit, il va donner une nouvelle impulsion au réveil, parce qu'il va empêcher le réveil de dévier, justement, dans toutes sortes de voies d'égarement qui vont l'éteindre. Mais précisément, le ministère du docteur va permettre de garder le réveil sur les rails, sur la droite ligne, et donc de se développer. Et Donadieu raconte justement comment, après tout un temps où il avait passé dans cette église, eh bien, les frères étaient revenus de leur erreur en disant « Ah ben non, c'est pas du tout ce qu'on pensait, au contraire, votre ministère nous est tout à fait précieux. » Mais il est certain qu'a priori, c'est un ministère qui n'apparaît pas toujours. Et quand on a affaire de véritables docteurs, il n'y a pas de vision. Si. Ceux qui n'aiment pas la vérité vont être amenés à se séparer. Mais il vaut mieux qu'ils le fassent. Mais autrement, parmi les véritables enfants de Dieu, non, il n'y aura pas de vision. Quand on a affaire à des docteurs qui ne sont pas de véritables docteurs, qu'il y en a. Les seules divisions que crée un véritable docteur sont celles des cœurs incrédules et mauvais. Et c'est pourquoi Paul emploie une expression pour désigner ce qu'est la caractéristique, la marque essentielle du ministère du docteur. Il dit « J'ai planté, Apollos, le docteur, a arrosé. » Le docteur est celui qui arrose. Alors bien sûr, c'est beaucoup moins spectaculaire que de planter. C'est beaucoup moins spectaculaire que de moissonner. Et si l'on considère que le fait de planter est le ministère de l'apôtre et celui de moissonner le ministère de l'évangéliste, eh bien, comme disait Donald G., le ministère du docteur est un des ministères les plus ingrats qui soit. Arroser, ça n'a rien de spectaculaire. Et pourtant, c'est tellement important. Car si on n'arrose pas ce qui a été planté, ce qui a été planté va dépérir. Et si ça dépérit, il n'y aura pas de moisson. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est le Seigneur qui fait croître. Et le docteur est là justement pour garder les choses dans la ligne droite, la ligne juste. Le docteur est là pour veiller à ce que il n'y ait pas de déviation, et dès qu'il discerne sur le plan doctrinal, sur le plan du comportement, quelque l'amorce d'une déviation, l'amorce d'une hypertrophie ou d'une atrophie de la doctrine, il redresse tout de suite. Et c'est pourquoi, comme disait Donald G., le propre, la caractéristique essentielle du docteur, c'est la modération et l'équilibre. Tout en sachant très bien que, comme dira l'apôtre Paul, nous ne connaissons qu'en partie. Le docteur est un homme humble. D'abord parce que, je dirais presque que son ministère l'exige, dans la mesure où ce n'est pas toujours très apprécié. Du moins, l'utilité n'apparaît pas toujours, évidemment. Mais également parce que lui aussi peut éventuellement se tromper. Et c'est ainsi que nous voyons Apollos qui s'entretient avec Aquilas et Priscille, qui lui explique plus exactement la voie du Seigneur, parce qu'il n'était pas éclairé encore sur tel et tel point. Il avait simplement connaissance du baptême de Jean, nous est-il dit. Le docteur est donc celui qui construit solidement sur le fondement posé par l'apôtre. Et c'est une autre image que l'apôtre Paul emploie. J'ai posé le fondement comme un sage architecte, maintenant à d'autres de construire. Qu'ils prennent garde à la manière dont ils construisent. Mais dans la mesure où il va poser la saine doctrine, le docteur pose la charpente de la maison. Le squelette. Alors évidemment, quand on a un squelette, on n'a pas tout, c'est bien certain. Quand on a une charpente, la maison n'est pas finie. Mais si elle n'a pas une structure solide, La maison aura beau être magnifique, ornée, etc. Si elle s'effondre après, c'est pas tellement intéressant. Et quand la maison est terminée, la structure a disparu. On ne la voit plus. Elle est là, mais on ne la voit plus. Et tel est le ministère du prophète, l'œuvre du docteur, pardon. Le prophète, il structure, il pose la charpente, la structure de l'édifice, tout en sachant très bien que ce n'est pas ça. Mais il faut véritablement cette doctrine saine. Donc, à cause de cela, ministère en général peu apprécié, car n'ayant pas de résultats spectaculaires. Mais le but du docteur est d'aider ceux qui ont cru. Et si ce n'est pas, s'il n'y a pas de ministère de docteur, que se passe-t-il? D'abord, la superficialité. Le ministère du docteur est l'antidote à la superficialité. Et c'est pourquoi, dans un temps comme celui-ci, il y aurait souvent besoin de docteurs. Quand on voit la superficialité, voire, on pourrait dire, caractère infantile au mauvais sens du terme, de certains enseignements, eh bien, on se dit que là, il y aurait besoin de docteurs. Deuxièmement, quand il n'y a pas de docteur, il y a automatiquement des déviations qui naissent. Surtout, je dirais, si on a affaire à un environnement charismatique. Dans un environnement non charismatique, ça joue moins. Et d'ailleurs, c'est à cause de déviations éventuelles, dans le domaine des dons spirituels ou autres, que nombreux sont, dans le milieu évangélique, certains qui ne veulent pas entendre parler des charismes et ont fait des expériences négatives à ce niveau-là. Mais souvent, justement, c'est parce qu'il a manqué de docteurs pour structurer les choses. Je me souviens de ces débuts du réveil dans le nord de la France, où il y avait eu des choses authentiques de l'esprit, mais où des femmes s'étaient bombardées prophétesses. Et dans une certaine église, il y avait deux prophétesses. Et ces deux prophétesses s'anathémisaient l'une l'autre dans leur prophétie publique, vous voyez ce que ça donnait. Il n'y avait pas de docteur pour remettre les choses d'aplomb. Et là, il aurait fallu trancher. Il aurait fallu dire d'abord, ces femmes ne sont pas prophétesses. Elles ont des dons de prophétie, elles ne sont pas prophétesses. Et deuxièmement, elles déraillent. Et donc trancher, remettre les choses au point sur le plan charismatique, sur le plan de l'enseignement des dons spirituels. Or, précisément, que voyons-nous aujourd'hui? Eh bien, justement, un foisonnement de faux docteurs dans l'Église. Finalement, l'accomplissement de ce que Paul disait à Tite, ils veulent être docteurs de la loi, ils ne savent pas ce qu'ils enseignent ni ce qu'ils disent. Et dans un autre texte, Paul met en garde aussi en disant que il n'y a pas beaucoup de gens qui enseignent. Au sens, donc, de docteurs. Il ne peut pas y avoir dans l'Église des foules et des foules de docteurs. Et précisément, aujourd'hui, n'importe qui enseigne sur n'importe quoi. Oh, c'est l'esprit du siècle, dira-t-on tout simplement. L'esprit du siècle qui veut que tout le monde soit polyvalent et que la démocratie est dans, il n'y a plus d'enseignants, il n'y a plus d'enseignés, etc. Et par conséquent, nous voyons toutes sortes d'enseignements. Et chacun, on a l'impression que chacun cherche son truc. Alors vous avez ceux qui enseignent pour les couples en difficulté, vous avez ceux qui enseignent sur les enfants, vous avez ceux qui enseignent sur le fil à plomb, vous avez ceux qui enseignent sur la quatrième dimension. Chacun a trouvé un truc. Ça veut dire qu'il croit qu'il a, ou il affirme du moins qu'il a reçu une révélation de Dieu, la quatrième dimension, le fil à plomb, le moyen de la louange mécanique pour avoir du succès en tout. Alors, on commence à répandre cet enseignement. Et puis après, on écrit des livres, ça circule. Et vous avez toutes sortes d'enseignements bizarres qui courent les églises. Les gens se passent ça, et puis sont ébranlés, sont troublés par toutes ces doctrines. Et il n'y a pas de véritable docteur pour remettre les choses en place. Et même s'il y en avait, les gens ne les écouteraient pas. C'est tellement séduisant, ces fausses doctrines. Mais on ne se rend pas compte que ce faisant, on est en train de vivre un des signes de la fin tel que le Nouveau Testament l'annonce. Il y a eu des faux prophètes, il y aura aussi des faux docteurs. Et alors, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, ça nous donne finalement ce qui était à Corinthe. Avec des écoles diverses au sein des églises. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Céphas, moi, je suis de Christ. Alors, vous avez aussi dans les églises ceux qui sont les adeptes de la quatrième dimension, ceux qui sont les adeptes du fil à plomb, ceux qui sont les adeptes de la louange mécanique, ceux qui sont les adeptes de telle et telle autre bizarrerie. Et alors, chacun essaie de pousser son truc sur le devant de la scène. Et ça nous donne quelque chose d'épouvantable. Ça nous donne un royaume divisé contre lui-même. Ça nous donne une confusion doctrinale sans précédent. Et un grand nombre des problèmes de l'Église moderne viennent justement de problèmes doctrinaux. Souvent, des problèmes doctrinaux qui naissent à partir soit d'expériences. Ah, je me souviens de ce pasteur qui un jour me disait qu'on peut être rempli du Saint-Esprit et pourtant être possédé. Ah bon? J'ai réagi. Enfin, c'est pas ce que dit la Bible. Ah, ce pasteur a dit... En tout cas, l'expérience montre que c'est vrai. Ah bon, je dis, parce que donc l'expérience a raison contre la Bible. Voilà. Exemple de déviation. Il aurait fallu voir de quelles expériences parlait ce brave pasteur. Il aurait fallu prendre les cas à partir desquels il construisait sa doctrine. Est-ce que ces gens étaient véritablement convertis? Ou est-ce que ce n'étaient pas des gens qu'on avait pensé qu'ils étaient convertis alors qu'ils ne l'étaient pas? Était-il bien possédé ou avait-on vu des démons là où il n'y en avait pas? Enfin, il y avait beaucoup de choses à dire. Enfin, voilà, à partir de deux, trois cas comme ça qui ont semblé, hop, on construit une doctrine. Alors vous avez ensuite toute cette doctrine, on peut être, il y a différents stades où on n'est pas toujours possédé, mais on est démonisé, et alors il faut, je ne sais pas quoi, lier, confesser les péchés de vos ancêtres depuis la quatrième génération. Et alors, pensez si les ancêtres sont morts et enterrés depuis quatre générations. Alors maintenant, la dernière, dans les milieux charismatiques, j'ai appris ça l'autre jour, c'est que maintenant, il y a des personnes dans les milieux de renouveau catholique, comme ils disent, qui sont en contact avec les âmes du purgatoire. Alors, où on en est? Alors, comment voulez-vous que les choses marchent avec des choses comme ça? Alors, évidemment, on peut dire, nous avons besoin de docteurs. Ben oui. Mais ils se donneront une foule de docteurs, nous est-il dit, selon leur cœur, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des femmes. Nous vivons cela. Or, précisément, les erreurs, les faux docteurs sont des gens qui hypertrophient certaines vérités. Alors que précisément le véritable docteur, c'est l'inverse, c'est l'équilibre. Et bien souvent, il y a aussi derrière ces faux docteurs un esprit d'orgueil. Celui d'avoir son truc, quoi. J'ai trouvé mon truc, moi. Moi, c'est le fil à plomb. Ça y est, c'est là, j'ai trouvé un truc formidable. Maintenant, c'est les âmes du purgatoire. Ah ben, on est bien parti avec ça. Alors comme ça, on se fait un nom, on se fait une célébrité, on écrit un bouquin, des bouquins, trois bouquins, ça se vend. On est invité, on tourne. Puis après, il y a une mode, une autre mode, un autre truc, un autre qui trouve un autre truc, qui chasse l'autre. Alors faut, on renchérit, on dit tiens, ça y est, je suis passé de la scène, il faut que je trouve autre chose. Tout ça n'est pas sérieux. Et non seulement tout ça n'est pas sérieux, mais c'est destructeur. Et c'est pourquoi il nous faut justement veiller. Et Jésus dit cela, méfiez-vous de ces faux ouvriers qui viennent en vêtements de brebis, mais qui sont en fait des loups ravisseurs, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quels fruits portent leur enseignement ? Le fruit de ces docteurs est-il confusion ? Est-il division ? Est-il celui qui amène à jeter le doute sur une foule de choses qui sont profondément bibliques, comme les dons spirituels ? Alors on peut dire que ces docteurs-là ne viennent pas de Dieu. Mais leur enseignement, au contraire, contribue-t-il à ramener les choses dans l'équilibre, à apporter la bénédiction de Dieu sur le peuple, la vision juste, la vision saine, et la joie du Saint-Esprit, la joie que procure la vérité, le fait de savoir que l'on marche dans la vérité? Alors c'est un prophète qui vient de Dieu. C'est un docteur qui vient de Dieu. Et somme toute, il y a cette approbation de l'Esprit de Dieu dans le cœur, et puis évidemment, la conformité avec l'Écriture, c'est le premier point. Seulement, comme en plus de ça, on ne connaît plus l'Écriture aujourd'hui, on ne lit plus l'Écriture, ça veut dire que n'importe qui peut venir raconter n'importe quoi. C'est certain que ces gens qui nous parlent de la quatrième dimension, ou bien de la louange mécanique, ou bien des âmes du purgatoire, seraient venus dans les églises telles qu'elles existaient il y a 100 ans, ou même au début du réveil et de Pentecôte, quand les gens étaient pétris et nourris de la parole de Dieu, eh bien, ils ne seraient pas restés longtemps en chair. On les aurait fait descendre manu militari, c'est évident. Mais comme précisément on ne connaît plus la parole de Dieu, on ne la lit plus, que voulez-vous ? N'importe qui peut dire n'importe quoi. Plus c'est bizarre, et plus c'est prisé. Plus c'est extraordinaire, plus c'est spectaculaire, et plus c'est apprécié. Mais alors évidemment, on comprend que le pauvre docteur qui vient en disant « non, les choses ne sont pas comme ça, c'est beaucoup plus... » C'est la croix, la marche avec Dieu, c'est la croix, c'est le renoncement à soi-même, c'est la marche dans l'humilité. Il n'y a pas tous les jours des choses spectaculaires, il n'y a pas toujours des grandes choses, même s'il est vrai qu'il y en ait. Monsieur n'est pas intéressant, il n'intéresse personne, qui reste dans son coin. Si on n'a pas des choses spectaculaires à dire et à faire, eh bien, c'est pas la peine, quoi. Seulement la vérité de Dieu n'est pas toujours spectaculaire, c'est ça le problème. Et là, on arrive finalement à cette déviation que nous reprochent parfois certains catholiques quand ils attaquent la doctrine du libre examen en disant que chaque protestant est un pape la Bible à la main. Eh bien, on arrive à ça. C'est vrai aujourd'hui, dans certains milieux. Et cela vient encore une fois parce qu'on n'a pas la vision des ministères. Et là, nous revenons à ce que nous avons dit quand nous avons commencé cette étude sur les ministères. Combien la vision du ministère est importante. Si on n'a pas la vision des ministères, eh bien, il y a toutes sortes de déviations. Le corps n'est plus un solide assemblage qui forme un tout bien coordonné. Il n'y a plus cette édification du corps qui tire son accroissement de la force qui vient de chacune de ses parties. On ne s'édifie plus dans la charité, dans l'amour, dans la vérité, etc. etc. On peut multiplier les exemples. Et ça, c'est le gros problème. Donald G. avait bien dit, le mouvement de Pentecôte réussira ou échouera dans la mesure où il reconnaîtra ou il ne reconnaîtra pas les ministères, il les remettra en valeur. Aujourd'hui, on ne veut plus de ministère du tout. Tout le monde peut tout faire. Alors, il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas s'étonner de la gabegie dans laquelle on se trouve. Et alors, le docteur aussi, quand il est véritablement ce qu'il doit être, parle avec l'autorité du Saint-Esprit. non pas dans des spéculations, non pas dans des, comment dirais-je, hypothèses plus ou moins fondées, mais avec une autorité qui vient du Saint-Esprit. Dans le fond, c'est ce que faisait l'apôtre. Paul, quand il évoquait, par exemple dans les Galates, regardez avec quelle autorité il enseigne. Et c'est ce qu'on disait de Jésus, il enseignait avec autorité et non pas avec les scribes. Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis, c'est tout le contraire du théologien. Là, les pharisiens apparaissent comme des théologiens. Rabbi Intel a dit, et puis par contre, Rabbi Intel lui a dit le contraire. Et puis un troisième rabbin a encore dit une troisième chose. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut penser là-dedans? Ce qu'il faut penser, on ne sait pas trop ce qu'il faut penser. Et finalement, quand on s'en va de là, on se dit, qu'est-ce qu'il faut penser? Vous avez entendu qu'il a été dit. Mais moi, je vous dis, voilà. Et pourquoi tu dis ça, toi? Parce que je l'ai reçu de Dieu. Les paroles que je vous dis, ce n'est pas moi qui les... Elles ne viennent pas de moi. Je les dis comme le Père me les a dites. Il enseignait avec autorité, et non pas comme les scribes. Justement, ce matin, on recevait une lettre d'un... Enfin, pas une lettre directement, qui rapportait les propos d'un brave ami, un monsieur, qui attaquait notre revue Keren, parce que nous ne mettions pas en parallèle la thèse israélienne et la thèse palestinienne. Alors nous ne faisions pas preuve d'objectivité. Alors je me propose de répondre à ce brave ami, ou de lui faire répondre du moins, parce que ce n'est pas moi qui l'ai écrit, que l'objectivité ne consiste pas à mettre d'un côté sur le même plan la vérité et le mensonge, mais de dire voici la vérité, voici le mensonge. Or aujourd'hui, sous prétexte d'objectivité, de largeur d'esprit, je me souviens aussi d'un frère qui était un jour allé prêcher, invité, qu'il était dans une grande rencontre charismatique, c'était tout à fait au début du réveil charismatique dans les années 70, et dans un grand centre français. C'était une des premières rencontres interdénominationnelles à laquelle il y avait des catholiques. Et ce frère avait prêché, évidemment, ce que la Bible dit, notamment sur le baptême d'eau, la conversion, le baptême d'eau, puis ensuite le baptême dans le Saint-Esprit. Et un des organisateurs de cette rencontre lui avait dit, mais alors, à ce moment-là, si vous prêchez votre doctrine, vous, pentecôtistes, alors il va falloir qu'on demande aussi aux catholiques de prêcher leur doctrine du baptême des enfants, parce que ce n'est pas objectif, il faut que chacun puisse s'exprimer. Alors le frère a dit, mais que dit la Bible? Vous voyez le baptême des enfants, vous, dans la Bible? Vous voyez le baptême catholique, vous, dans la Bible? Oui, non, mais c'est pas ça, mais l'objectivité. Bon, il dit, vous n'êtes pas d'accord avec ce que je prêche? Si, mais il ne faut pas le dire comme ça. Je peux continuer à prêcher ou pas prêcher? Ouais, les catholiques, qu'est-ce qu'ils vont dire? Bon, d'accord. Eh bien, d'accord, je m'en vais. Il est parti. C'est ça, le docteur. L'autorité. Voilà ce qu'est la vérité, que les gens sachent. Que ce ne soit pas la confusion. Comme dit l'apôtre Paul, si la trompette fait entendre un son confus, qui se préparera au combat? Si on ne sait pas sur quel chemin on doit marcher, peut-être celui-ci, peut-être celui-là, mais peut-être encore un troisième, on ne peut pas être sûr. Bon, c'est vrai qu'il y a des choses, on ne peut pas toujours être sûr dans la parole de Dieu à 100%. Et c'est vrai, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Bien, je sais, c'est sur des détails en général. Mais sur les grandes affirmations, sur les... Et puis, le docteur, il est là pour... que dit la Bible? On vient vers le docteur, on dit, que dit la Bible? Nous avons tel problème. On allait vers Paul. On disait, bon, Paul, voilà, regarde, on a un problème, parce que on a des parents inconvertis qui nous invitent chez eux et qui nous donnent à manger de la viande qui est sacrifiée aux idoles. Faut qu'on la mange ou faut qu'on la mange pas? Voilà. Que dit la Bible? Comment tu vois ça, Paul? Paul ne va pas répondre. Mais peut-être que vous pouvez faire, on ne peut pas être trop sûr, Rabbi Intel a dit ceci, l'apôtre. Non. Et voilà ce que vous faites. Mangez de tout ce qu'on vous présente sans vous enquérir d'où ça vient. Maintenant, si quelqu'un vous dit, eh bien, cette viande est sacrifiée aux idoles, n'en mangez pas, non pas à cause de vous, mais à cause de celui qui l'a dit. Voilà, bon, il donne une direction claire. C'est pas ambigu, c'est clair. Il parle avec autorité. Qu'est-ce qu'il faut faire, Paul? Il faut se marier, il faut pas se marier? Bon, Paul donne aussi, là, il est moins affirmatif. Il dit, mon avis, voilà ce que dit le Seigneur. Il dit, maintenant, pour ce qui est de ceux qui sont pas mariés, les vierges, je n'ai pas pris un su de Dieu. Je donne mon avis pour être fidèle. Mais pour le reste, voici ce qu'a dit le Seigneur. Que l'homme et la femme ne se séparent pas. Bon, c'est clair. Sur le divorce, sur les choses comme ça. Il n'y a pas à discuter. C'est comme ça. Il y a autorité. Et c'est pourquoi, donc, ici, il y a un grand besoin de connaissances parmi le peuple de Dieu aujourd'hui. Et le grand problème du peuple de Dieu, c'est qu'il ne s'en rend pas compte et qu'il méprise les ministères. Il n'a pas la vision de l'harmonie du plan de Dieu. Et ça, c'est un grand, grand drame dans l'Église aujourd'hui. Nous abordons maintenant un autre point, qu'on ne finira pas ce soir vraisemblablement, c'est le ministère d'évangéliste. Dans l'ordre des choses, il apparaît que le ministère d'évangéliste doit être traité maintenant. Avec le ministère de pasteur, c'est le ministère le plus courant. En tout cas, c'est pratiquement le seul ministère qui soit reconnu. Par exemple, les Assemblées de Dieu de France ont pour principe, quand un jeune entre au service de Dieu, qu'il a fait déjà un prestage avec un pasteur ancien, de lui faire remplir un certain nombre de formulaires. Par exemple, sur la doctrine, pour voir s'il est d'aplomb sur la doctrine, exposer brièvement la doctrine du salut, la doctrine du baptême d'eau, la doctrine du baptême du Saint-Esprit, enfin, etc., etc. Et puis, ensuite, il y a des questions plus personnelles qui lui sont posées, et notamment celle-ci. Quel ministère pensez-vous avoir? Et alors, entre parenthèses, pasteur, évangéliste. Et comme écrivait un frère qui avait dû remplir ses formulaires, il dit, moi j'avais envie de rajouter apôtre, prophète, docteur, point d'interrogation. Pourquoi il citait que ces deux-là et pas les trois autres? Parce qu'ils auraient sûrement eu du mal à concevoir qu'un jeune puisse dire, je crois que je suis appelé à l'apostolat. Ben oui, peut-être, encore que pourquoi pas. Alors à ce moment-là, il a fallu le prouver. Et l'éprouver, de la part des frères anciens qui auraient recueilli les 10 formulaires. Mais c'était révélateur d'un certain état d'esprit. Dans les églises évangéliques, y compris dans les églises de réveil, bien souvent, les seuls ministères auxquels on pense, pasteurs, évangélistes, terminés. Quand on ne fait pas d'évangéliste, en plus, un pasteur de seconde zone, je me souviens quand j'étais jeune converti, petite église évangélique où j'étais, il y avait un jeune pasteur stagiaire qui était là avec le pasteur plus ancien. Et quand il se présentait, le pauvre frère, il n'avait pas vu le piège. Il disait, ah ben moi je suis l'évangéliste du pasteur Intel. Il voulait dire, par là je suis son stagiaire. Et puis le jour où il aurait fini son stage, il deviendrait pasteur. Ça veut dire qu'il avait un galon de moins sur la manche, quoi. Alors, on voit ici toutes les idées fausses qu'il y a sur le ministère de l'évangéliste. Je suis son évangéliste. Ça veut dire que je suis un pasteur apprenti, quoi. Puis quand j'aurai acquis l'expérience, ben je serai un pasteur à part entière. Mais pour le moment, je ne suis pas encore pasteur à part entière. Je suis qu'un évangéliste. Alors qu'il est bien évident qu'un véritable évangéliste ne sera jamais pasteur. Il restera toute sa vie évangéliste. Et c'est heureux. Parce qu'on a aussi besoin d'évangélistes. Si on avait, j'ai dit tout à l'heure qu'on avait besoin de docteurs, mais on a aussi besoin d'évangélistes. Et qu'est-ce que c'est donc que le ministère d'évangéliste? C'est un ministère donc très important. Et alors que le docteur est entièrement tourné vers les croyants, son ministère est entièrement tourné vers les croyants. Il enseigne les croyants, il n'enseigne pas les païens. L'évangéliste, lui, au contraire, est entièrement tourné vers les incroyants, vers les inconvertis. C'est donc deux ministères qui sont fondamentalement différents. Le but de l'évangéliste, donc, c'est de répandre la bonne nouvelle, comme le dit le mot évangéliste, parmi les non-convertis, parmi les incroyants, pour les amener à l'évangile, pour les amener à se tourner vers Jésus. Ce sont ceux qui n'ont qu'une seule prédication, la prédication du salut. Et un véritable évangéliste pourra vous prendre n'importe quel texte de la Bible. Et à partir de ce texte-là, vous pouvez lui donner n'importe quoi. Il vous ramènera toujours au salut. Prenez-lui un texte sur, les prescriptions du Lévitique sur les animaux à manger ou à pas manger, sur le fait que on doive détruire des vases qui ont été souillés par des animaux qui sont tombés dedans. À partir de ça, il trouvera le moyen de vous parler de Jésus mort sur la croix. Ça, c'est le type de l'évangéliste. Il n'a qu'un seul message. Seulement, il a ce message-là, percutant, parce que l'évangéliste, il a la vision du salut des âmes. C'est sa passion. Il a une véritable passion pour le salut des âmes. Et sa vision l'amène toujours à entrevoir des plans nouveaux pour l'évangélisation, une stratégie nouvelle. Eh bien, maintenant qu'on a atteint ce but-là, il faut que, telle ville-là, il n'y a encore rien là-bas, il faut faire quelque chose, il faut qu'on voit comment est-ce qu'on peut les atteindre, etc. Tel pays, telle région, etc. Ou même éventuellement à l'individu. L'évangéliste, c'est celui qui est capable de vous aborder un illustre inconnu dans les circonstances les plus rocambolesques et puis de l'amener au Seigneur. Scott, n'hésitez pas de temps en temps, et ceux qui se souviennent de lui, évidemment, Scott n'était pas quelqu'un qui s'embarrassait beaucoup de complexes. Vous avez raison d'ailleurs. Quand il s'agissait de l'évangile, et par exemple, n'hésitez pas à s'agenouiller dans la rue avec un inconverti et puis prier pour lui, là, pour son salut, au vu au-dessus de tout le monde. Ne dérangez pas. Ça, c'est le véritable évangéliste. Deuxièmement, parce que l'évangéliste est l'homme d'un seul message, il a une prédication simple. Simple, mais pas simpliste. Simple parce que, précisément, il s'agit toujours de l'ABC de l'Évangile. Des choses élémentaires, mais les choses élémentaires qui sont les plus importantes. Car finalement, si nous pouvions reprendre un petit peu ce que disait le sage Hillel, le rabbin Hillel, quand on lui demandait est-ce qu'on peut résumer toute la Torah pendant qu'on est debout sur un pied, il disait oui. Aime ton prochain comme toi-même, tout le reste ce n'est que des commentaires. Eh bien, l'évangéliste pourrait dire la même chose. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, puis tout le reste, la sanctification, le baptême d'eau, le baptême dans le Saint-Esprit, tout ça, c'est les commentaires. C'est vrai. Il a un seul message, mais c'est le message essentiel. Et précisément, l'évangéliste a un don, a un charisme pour faire passer ce message. Bien sûr, un docteur peut prêcher la même chose. Et il le prêchera d'ailleurs beaucoup mieux, si j'ose dire. Ça veut dire que sur le plan logique, sur le plan doctrinal, il ira sûrement beaucoup plus loin dans l'explication du salut que ne le fera l'évangéliste. Mais les inconvertis pourront entendre cet exposé doctrinal sur le salut sans que ça les touche. Tandis qu'ils entendront le même message dans la bouche d'un évangéliste dit d'une manière peut-être beaucoup moins élaborée, beaucoup moins logique, ça les touchera, ils se convertiront. parce que précisément l'évangéliste a un charisme que le docteur n'a pas. Il est capable de trouver les mots justes pour s'adresser aux foules comme pour s'adresser aux individus. Le type de l'évangéliste dans le livre des Actes, c'est Philippe. Philippe qui au départ était un diacre et qui ensuite est devenu évangéliste, du moins s'est révélé être un évangéliste. Nous voyons, il nous est dit que c'était un homme sage, rempli du Saint-Esprit, qui était en même temps un homme humble. Humble car il connaissait ses limites, il savait que son ministère s'arrêtait à tel endroit, il n'allait pas plus loin, et quand il a eu terminé son travail en Samarie, qu'un réveil a éclaté en Samarie comme suite de sa prédication après que de multiples Samaritains soient venus à Jésus, eh bien, il a envoyé chercher des apôtres à Jérusalem pour poursuivre l'œuvre, parce que lui, il savait bien qu'il n'en était pas capable, ce n'était pas son ministère. Et lui est allé plus loin. Quand le Seigneur lui a dit « Va, abandonne ce grand réveil, va sur le chemin de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert », il n'a pas hésité à le faire. Puis après, il ne revient pas en Samarie. Il continue vers la côte, vers Gaza, vers Ashdod, vers Césarée, où nous le retrouvons plus tard. Un homme humble. Et plus que peut-être aucun autre, l'évangéliste a besoin d'humilité. Il a besoin d'humilité parce qu'il y a dans sa vie la présence du surnaturel. L'évangéliste a parmi les charismes qui sont les siens, des dons de guérison, des dons de faire des miracles, des dons de révélation, de connaissance, des esprits, du discernement des esprits plutôt, et donc la possibilité de chasser des esprits impurs. Et logiquement, de la même manière que les dons de révélation sont l'apanage du prophète, les dons de puissance sont l'apanage de l'évangéliste. Il est difficile de concevoir, bibliquement parlant, un évangéliste sans les dons de puissance, guérison, miracle, discernement des esprits. Alors bien sûr, il y a des exceptions. Un homme comme Billy Graham, qui est un très très grand évangéliste, peut-être le plus grand évangéliste de cette génération, n'a pas de don de guérison. Bon. On peut se demander ce qui se passerait si Billy Graham en avait. Et on peut se demander si alors son ministère n'aurait pas une dimension encore beaucoup plus grande, même si la dimension de son ministère déjà est très grande. Mais bibliquement parlant, il est certain que Philippe avait ses dons. Et il nous est dit que les foules entières étaient attentives au miracle que faisait Philippe. C'est ça qui les avait frappés. Et souvent, effectivement, ce qui frappe les foules, c'est les miracles. On dira, mais enfin, le miracle, c'est le truc, alors pour... Non, pas du tout. Mais c'est le signe qui authentifie la vérité du message. Et c'est Louis Hughes, qui avait bien compris cela, qui était aussi un très très grand évangéliste de la Pentecôte au début de ce siècle, Hughes, qui était un homme de foi, une foi hors du commun. Il avait écrit ce livre remarquable que je vous recommande, si vous ne le connaissez pas, Une foi toujours plus grande, qui est édité en français, je crois, on doit l'avoir dans la bibliothèque, je crois. Et Wigglesworth avait cette manière de faire quand il arrivait dans un endroit, une réunion d'évangélisation, je vous ai déjà raconté ça. Il disait, voilà, vous n'êtes pas obligé de croire a priori à tout ce que je vais vous dire. Vous n'êtes pas obligé de croire que je ne suis pas un imposteur et que ce que je vais vous raconter est la vérité. Alors, pour vous montrer que je ne suis pas un imposteur, pour vous montrer que le message que je vous annonce est le message de Dieu, et le message de vérité par lequel vos âmes peuvent être sauvées, eh bien, je vais faire un test. Voilà, je demande ici, s'il y a un malade, je dis que le premier malade qui s'approchera de l'estrade pour que je prie pour lui sera guéri, quelle que soit sa maladie. Et s'il n'est pas guéri, alors vous avez le droit de me chasser de ce lieu, c'est que je suis un imposteur. Vous avouerez que pour dire une chose pareille, il faut avoir une sacrée foi. Et de fait, ses collaborateurs racontent que parfois, quand ils voyaient se lever des paralytiques là, qui arrivaient complètement, ils avaient un instant d'émotion. Mais il paraît que jamais, dans le ministère de Wigglesworth, ça n'a raté. Quelquefois, Wigglesworth était obligé d'employer, comme on sait, des moyens musclés. Il prenait le paralytique, allez, marche ! Il le mettait debout pratiquement de force. Mais l'autre partait toujours guéri. C'est ce qui est formidable. Ça, c'est le véritable évangéliste. Le véritable évangéliste. Alors, ça comporte un danger. Le danger, c'est que précisément, cet homme en vient à être idolâtré. À cause précisément des miracles. Vous savez ce qui s'est passé pour Jésus. Le jour de la multiplication des pains, quand la foule a eu mangé, ils ont voulu le faire roi. Et Jésus a dû s'enfuir. Eh bien, toute proportion gardée, c'est ce qui arrive parfois à certains évangélistes. Ils sont idolâtrés. Et alors, le danger pour l'évangéliste, c'est le danger d'orgueil. C'est le danger de créer une formidable organisation qui est en dehors de l'Église. Parce que justement, le ministère de l'évangéliste se situe essentiellement en dehors de l'Église, puisqu'il s'adresse à des inconvertis. Bon, c'est toujours en principe avec l'aval de l'Église, dans le cadre de l'Église, mais ce n'est pas directement à l'Église qu'il a affaire. Alors, des foules peuvent être attentives et peut se passer ce qui aurait pu se passer avec Simon le magicien. Donne-moi là, je vais te donner l'argent pour que tu me donnes le don qui est le tien. Bon, aucun évangéliste ne ferait ça. Mais vous avez peut-être remarqué que les scandales qui défraient la chronique, notamment ces dernières années, notamment aux États-Unis, eh bien, sont le fait d'évangélistes. 9 fois sur 10, ce sont des évangélistes qui sont à la base de ces scandales. Scandale financier, scandale de mœurs, mais surtout scandale financier. Parce que ce sont des gens qui ont réussi, comment dirais-je, sur le plan pécuniaire, sur le plan de la popularité. Même un a voulu se présenter à la présidence des États-Unis. Bon, ça a raté, mais enfin, il a quand même inquiété Bush. Eh bien, le danger, il est là. Et un évangéliste qui se laisse griser de cette manière-là est un homme qui devient très dangereux pour l'Église. Ça, si vous voulez, on verra la prochaine fois comment on doit justement éviter ce genre de problème, ce genre de danger. Donc c'est à la fois un ministère important, remarquable, parce que il est certain que s'il n'y a pas ces signes dont parlait Rigelsweur, c'est comme il le faisait, peut-être d'une manière un petit peu moins radicale toujours, parce que tout le monde n'est pas Rigelsweur pour avoir une foi pareille, mais en tout cas, en sorte qu'il y ait des signes, des miracles et des prodiges qui authentifient le message de l'Évangile, on constate que c'est très dur que les gens se convertissent autrement. Et que Dieu veuille nous donner aussi de véritables ministères d'évangélistes, tels que la Bible les conçoit, Ephésiens 4 et autres, et des évangélistes qui soient humbles, qui restent dans leur ministère, et qui soient au service de l'Église, et non pas à leur service, comme c'est le cas parfois dans certains milieux, notamment aux États-Unis. Voilà, si vous voulez, ce qu'on peut dire ce soir.